Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Et on commence avec les grands titres de l'actualité pour ce 1er octobre. Le point sur la pandémie de Covid-19 à travers le pays. Le nombre de cas reste stable dans le Victoria et la Nouvelle-Galles du Sud qui réouvre certaines de ses frontières. Direction la Nouvelle-Calédonie également, semaine cruciale pour le référendum sur l'indépendance. Et l'Allemagne, en Allemagne, procès historique d'un grand patron de l'automobile. Le point donc sur la pandémie de coronavirus. Pour débuter ce journal, le Victoria a enregistré 15 nouveaux cas aujourd'hui et 2 morts supplémentaires. Pourtant, le nombre de décès dans l'État à 800. La moyenne sur les 14 derniers jours pour la métropole de Melbourne reste inférieure à 20, se situant à 15,6 cas pour la quinzaine, donc pour les 15 derniers jours. Moyenne nécessaire en dessous de 20 pour assouplir davantage les restrictions relatives donc au coronavirus, et ce à la date du 19 octobre. En Nouvelle-Galles du Sud, extension de la bulle frontalière avec le Queensland, environ 150 000 personnes supplémentaires donc du nord de la Nouvelle-Galles du Sud peuvent maintenant voyager entre les deux États. Le Queensland assouplit également les règles applicables aux sites extérieurs, notamment les restaurants, les jardins, vous pouvez boire de la bière, les bars, les parcs et les parcs à thème. Le Premier ministre de l'État, Anastasia Palaszczuk, a déclaré qu'elle ne pouvait pas voir une deuxième vague d'infection de Covid-19 nuire à son État. On l'écoute.
I've had to make tough decisions to keep Queenslanders safe. And now we can focus on our economic recovery because of the decisions that we have made in relation to health. Queenslanders have a great lifestyle. It's wonderful to see people outdoors enjoying everything.
Ouais, donc Anastasia Palaszczuk, la première ministre du Queensland. C'était pour le point au niveau national. Sur le point international et les réponses politiques, le Chili a annoncé une aide de 2 milliards de dollars pour les petites et moyennes entreprises. En réponse donc à la crise du Covid-19, les autorités estiment que près de 2 millions de personnes ont perdu leur emploi dans le pays sur une population totale de 18 millions. L'économie est donc aux abois. Reportage dans les rues de Santiago au Chili avec Justine Fontaine.
Dans ce salon de coiffure, dans le centre historique de Santiago, les sèches-cheveux résonnent de nouveau depuis fin août. Malé Retamales, la directrice, s'apprête à postuler aux aides proposées par le gouvernement pour payer une partie des salaires des employés qui étaient au chômage partiel.
Nous étions fermés depuis le 18 mars. Avant, il y avait 3 salariés. Maintenant, nous n'en avons plus que 2. Ce serait une aide, ce serait mieux que rien, car évidemment, il est plus difficile qu'avant de payer les salaires.
Le salon de coiffure tourne encore au ralenti pour pouvoir respecter les règles sanitaires. Et même avec l'aide du gouvernement, l'entreprise ne pourra pas réintégrer tous les employés, dit-elle, car l'allocation tourne autour de 200 dollars environ, moins de la moitié du salaire minimum au Chili. Andrea Santoro dresse le même constat quelques centaines de mètres plus loin. Elle tient un café qui vient de rouvrir uniquement en terrasse.
On a repris avec 3 personnes et on va réintégrer d'autres salariés petit à petit en fonction de l'affluence. Mais l'aide de l'État ne va pas changer la donne. Cela ne nous permettra pas de réintégrer nos 17 salariés car la situation n'est plus du tout la même qu'avant.
Le gouvernement prévoit de verser ses allocations chaque mois jusqu'en mars. Les aides sont un peu plus importantes pour les salariés handicapés, les femmes et les jeunes de moins de 25 ans.
Voilà donc pour le Chili. Avant de passer à le reste de l'Europe, en France, il faut noter que la situation s'aggrave également, ça se complique un peu partout dans toutes les grandes métropoles françaises. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, devrait prendre la parole aujourd'hui pour annoncer des nouvelles mesures. On ne sait pas trop à quoi s'en tenir, mais ça pourrait être un peu plus sévère. Direction le Royaume-Uni, le Premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré que l'augmentation des décès quotidiens liés au Covid-19 est la preuve qu'un plan solide est nécessaire contre le virus. Les nouvelles infections augmentent de plus de 7000 cas par jour dans le pays et le gouvernement prévient que des nouvelles mesures sévères pourraient également revenir donc au Royaume-Uni si nécessaire. On écoute Boris Johnson.
I don't think it's what the British people want. I don't think they want to throw in the sponge. They want to fight and defeat this virus. And that is what we're going to do. Even as we fight COVID, it's vital that people get all the treatment they need for other conditions.
Voilà donc Boris Johnson. Le gouvernement espagnol répond quant à lui à une flambée également du nombre de cas de coronavirus avec des règles strictes permettant uniquement donc aux résidents de Madrid de quitter la ville que pour des voyages essentiels. 9 autres villes des régions métropolitaines seront soumises à des restrictions. Les gens peuvent traverser certaines municipalités pour aller voir les médecins, aller travailler, faire des courses alimentaires ou encore aller à l'école uniquement. Les regroupements sociaux seront limités à 6 personnes. Les bars et les restaurants fermeront à 23 heures, tandis que les parcs publics et les terrains de jeu donc pour enfants seront fermés. On écoute un témoignage qui en dit long sur le sentiment en Espagne.
People are taking care of themselves, but there are also people who are very tired of the pandemic, of the mask, of the headache. You see people who take care of themselves, there are also those who are not. You see them in the park without a mask, smoking.
Voilà donc pour la situation du Covid-19 à peu près à la fois en Australie et en Europe. Dans le reste de l'actualité, le président d'Azerbaïdjan a déclaré que la paix ne peut être obtenue que si les forces arméniennes quittent la région du Haut-Karabakh, alors que des combats, eh bien, ce que poursuivent, le Conseil de sécurité de l'ONU a fermement condamné le recours à la force et les manifestations qui ont éclaté, y compris en Grèce, qui compte une très forte communauté arménienne. Le militant Georges Ménéchian dit que les Arméniens sont attaqués par le régime azerbaïdjanais, alors que les deux parties s'accusent mutuellement de cibler les civils. On l'écoute.
The Greek people support the rights of Armenians because we have common history. We are both victims of genocide and we are sure that Armenia will prevail.
Voilà donc ce commentaire donc en Grèce. D'un point de vue diplomatique, on le sait, la France a pris la parole assez tôt dans ce conflit. Et bien, c'est maintenant au tour de la Russie de rentrer en jeu, comme nous explique Régis Djanté.
En fin d'après-midi, ce mercredi, l'armée de défense du Haut-Karabakh déplorait la mort de 3 civils dans la petite ville de Martakert, 3 victimes d'une frappe de l'aviation azerbaïdjanaise. Cette dernière est notamment utilisée dans les districts montagneux du nord de la province où se trouve par exemple Martakert. Mais Bakou compte aussi sur quantité de drones d'attaque et d'observation achetés auprès d'Israël ou de la Turquie, appareils qualifiés ici à Stepanakert de kamikazes. Voilà qui handicape sérieusement la défense du Haut-Karabakh et de l'Arménie qui constate que l'effort azerbaïdjanaises ont appris peu à peu ces dernières années à les maîtriser et à se donner un vrai avantage stratégique. Selon Yerevan et Stepanakert, l'armée de l'air de l'ennemi serait en outre renforcée par les avions F-16 de l'armée turque qui décolleraient de la base militaire aérienne de Ganja au nord de l'Azerbaïdjan. C'est un de ces F-16 qui aurait ce mardi abattu un Su-25 des forces aériennes arméniennes, faisant craindre du coup un conflit qui s'étendrait au-delà du Haut-Karabakh lui-même pour opposer directement Yerevan, Bakou et peut-être Ankara.
C'était Régis Djanté pour RFI. Dimanche aura lieu le deuxième volet du référendum d'indépendance en Nouvelle-Calédonie. Moment important donc pour l'île, alors que le premier volet, je vous rappelle, avait retourné un non massif à l'indépendance. Le point sur les enjeux avec Julien Sartre.
Dans la campagne officielle, dans les prises de parole, dans les meetings, l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie semble d'abord une question d'argent. Si la France s'en va, qui paiera les professeurs, les prisons, le personnel pénitentiaire, s'inquiète le parti des loyalistes, favorable ou non à l'indépendance. Si la France ne nous avait pas aidés pendant la crise du coronavirus, qui l'aurait fait? Réponse et position officielle du PALIKA, le principal parti indépendantiste. En ce qui concerne la crise Covid, il ne s'agit que d'un prêt. Une Nouvelle-Calédonie indépendante aurait pu emprunter à un meilleur prix sur les marchés internationaux. Plus généralement, la position du Front de Libération Kanak Socialiste, FLNKS, est de dire, je cite, « Notre pays est riche. Il exporte du nickel. Il faut ramener la valeur ajoutée en Nouvelle-Calédonie. Le pays finance déjà intégralement sa protection sociale avec les cotisations des travailleurs. » Fin de citation. Pour le salaire des professeurs, les indépendantistes prônent une réforme d'un système éducatif qui produit beaucoup d'échecs scolaires, notamment chez les jeunes Kanaks. Finalement, davantage que d'argent, c'est d'un choix de civilisation dont il s'agit.
Et c'était Julien Sartre. Donc pour RFI, on suivra ce sujet sur le référendum tout au cours des prochaines émissions. 13h10. Également dans l'actualité, bien entendu, le débat de la présidentielle américaine. C'était hier entre le président Donald Trump et le candidat démocrate Joe Biden. Échange très virulent dans une cacophonie. C'est en fait le résumé de ce qu'il en sort de ce débat. Les explications avec Marie Normand.
Inaudible, chaotique, ce sont les mots qui reviennent le plus ce mercredi matin. Le Washington Post n'hésite pas à qualifier cette rencontre de pire débat présidentiel de mémoire d'homme, une insulte au public et un triste exemple de l'état de la démocratie américaine. Le Colorado Spring Gazette pense que ce débat a dû plaire aux fans de catch. Même chose dans le Wall Street Journal qui écrit néanmoins que les catcheurs sont plus présidentiels que ces deux hommes-là. Nous pensons que des millions d'Américains ont décroché au bout de 30 minutes de débat. Et nous aurions fait la même chose si le regarder n'était pas notre travail. Pour ce quotidien, Donald Trump a fait une erreur stratégique. En voulant paraître plus fort que Joe Biden, il l'a beaucoup trop interrompu et ne lui a donc pas laissé le temps de faire des gaffes. L'ancien vice-président n'est pas en reste. Un Joe Biden qui dit vouloir rassembler mais qui a traité son adversaire de raciste, de clown et qui lui a demandé de la fermer. Bref, pour le Wall Street Journal, personne n'a gagné dans ce fiasco. Pour The Atlantic, difficile d'imaginer l'impact des deux autres débats, si ce n'est l'augmentation des tensions dans un pays déjà sur les nerfs.
13h12, la mort du dessinateur de bande dessinée Kino. Il est décédé hier en Argentine, il avait 88 ans, il était le père de Mafalda, Aude Villiers.
Tous les Argentins connaissent Mafalda, cette petite fille curieuse et maligne, éternellement coiffée d'un nœud dans ses épais cheveux noirs. La célèbre héroïne de bande dessinée imaginée par Kino orne toujours aujourd'hui les rues de Buenos Aires et le métro de la capitale argentine. Créé en 1962 pour une campagne publicitaire qui ne vit jamais le jour, le personnage de Mafalda et ses aventures commencent à être publiés dans le journal Primera Plana en 1964. Des vignettes qui n'ont pas pris une ride, c'est à travers les questions en apparence naïves et amusantes de Mafalda que Kino a souvent dénoncé les absurdités du monde adulte, comme les inégalités sociales, la guerre ou encore la course à l'argent. Kino, de son vrai nom Joaquín Salvador Lavado, a dessiné Mafalda durant une dizaine d'années, durant lesquelles le personnage a gagné une reconnaissance mondiale. Son œuvre a été traduite en plus de 30 langues et sans cesse rééditée. Kino est décédé à Mendoza, dans l'ouest de l'Argentine, où il était né 88 ans plus tôt.
Et c'était Aude Villiers pour RFI. Un procès historique en Allemagne, pour la première fois de l'histoire. Un ex-patron de l'industrie automobile est jugé pour fraude. C'est l'ancien patron d'Audi et c'est tout pour vous en souvenez peut-être, c'est pour avoir truqué les résultats des émissions de ces voitures, notamment les diesels. Explication sur ce procès donc historique avec Pascal Thibault.
L'ancien PDG voulait-il par là prendre ses distances avec Audi, la société qu'il a dirigée pendant 12 ans avec succès, doublant le chiffre d'affaires et engrangeant des bénéfices records. Impensable autrefois, c'est à bord d'une Mercedes que Rupert Stadler est arrivé mercredi pour le début de son procès à Munich. C'est la première fois qu'un ancien patron du secteur automobile allemand de ce niveau doit répondre devant la justice des trucages commis dans le cadre du Dieselgate. Il y a 5 ans, on apprenait que le constructeur Volkswagen avait durant des années installé des logiciels permettant à ses véhicules diesel d'apparaître moins polluants qu'ils ne l'étaient en fait lors des tests en laboratoire. Ces fraudes découvertes d'abord chez Volkswagen, concernait aussi ses filiales. Rupert Stadler pourrait ne pas rester le seul ancien patron de l'industrie automobile allemande à s'expliquer devant les juges. Le procès de l'ancien président du groupe Volkswagen, Martin Winterkorn, pourrait débuter l'an prochain.
C'était donc Pascal Thibault pour RFI. Allez, un mot de sport, de tennis pour conclure ce journal. La championne de Grand Chelem, hein, Serena Williams, c'est bien, a dû prendre partir de ce tournoi donc de Paris en raison d'une blessure au tendon d'Achille. La joueuse américaine, qui est âgée de 39 ans, tentait d'égaler le record de 24 titres de Grand Chelem. Elle aura maintenant besoin de 2 semaines de repos pour se remettre complètement. Serena Williams dit qu'elle ne sait pas quand elle rejouera. On l'écoute.
I love playing tennis, obviously. I love competing and I love being out here. It's my job. It's been my job. And I'm pretty good at it still. So until I feel that I'm not good at it, then I'll be like, oh, okay.
Voilà, donc Serena Williams qui reste philosophe après avoir dû prendre déclarer forfait à Roland-Garros. 13h15, coup d'œil météo pour le pays. À Perth, il fera 22 degrés. Adélaïde, 21. Melbourne, 20. Hobart, 17. Canberra, 18. Sydney, 25. Newcastle, 26. Brisbane, 28. Cairns, 30. Et Darwin, très agréable avec du soleil, 35 degrés. Un rappel des grands titres de l'actualité pour aujourd'hui. Le point donc sur la pandémie dans le Covid-19 à travers le pays. Le nombre de cas qui reste stable dans le Victoria. 15 nouveaux cas aujourd'hui. La Nouvelle-Galles du Sud qui réouvre certaines de ses frontières. On l'a vu en Nouvelle-Calédonie, semaine cruciale pour le référendum sur l'indépendance. Et l'Allemagne, on vient de le voir également, procès historique d'un grand patron de l'automobile. 13h15, tout juste. Courte pause et on retrouve Jean-Noël pour le sport dans quelques instants.
Vous aimez le programme en français ? continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/SBS French.